6h04, vendredi 19 octobre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. C'est vrai que la météo est pas mal en yo-yo. Hier après-midi, il faisait froid. Hier soir, il faisait froid. Puis, soudainement, au cours de la nuit, le mercure a grimpé. Ce qui fait que ce matin, on se retrouve avec autour de 6 degrés. Ciel généralement nuageux. Et après les nuages, il y aura un dégagement. On prévoit des vents de 30 à 60 km/h, du soleil. Maximum 16 degrés pour aujourd'hui. Donc, c'est quand même pas mal plus qu'hier. En soirée, ennuagement, 60 % de probabilité d'averse au cours de la nuit. Encore là, assez venteux, minimum de 10. Et pour la fin de semaine, samedi, nuageux, 60 % de probabilité d'averse avec un maximum de 14 degrés. Et dimanche, ensoleillé, maximum de 6. Bon, ce qui fait la une ce matin, évidemment, c'est le nouveau gouvernement du Québec, le gouvernement présidé par le premier ministre François Legault. L'assermentation hier, présentation sans surprise ou presque des titulaires de portefeuille. Quelques constats, je dirais de façon générale. C'est un gouvernement vraiment paritaire, c'est-à-dire homme-femme 50-50. C'est un gouvernement du 4-5-0. Quand j'entends des analystes dire que Montréal est peu représenté, Montréal n'a pas voté pour la CAQ. Je ne peux pas vous attendre d'avoir beaucoup de ministres qui sont, représentent en fait des comtés de l'île de Montréal. Donc, c'est un gouvernement à l'image de la Coalition Avenir Québec, un gouvernement très fort à Québec, très fort dans les couronnes, donc de Montréal, avec ce qu'on appelle le symbole du 4-5-0. Et moi, ce qui m'a frappé hier, c'est le ton de François Legault, qui promet un gouvernement plus humain et plus ouvert, un gouvernement moins dans la confrontation, davantage porté sur la recherche d'une espèce de consensus, ce qu'on appelle parfois une adhésion. C'est un beau discours, c'est une belle intention, c'est un gouvernement qui arrive, c'est un gouvernement qui est rafraîchissant, il faut donner la chance aux coureurs. Il y a normalement une lune de miel qui s'installe pour les 100 premiers jours et on voit le profil du gouvernement avec les ministres clés en économie, Christian Dubé, Girard aux finances, donc des gens qui sont quand même déjà assez établis. Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, qui sera avec nous plus tard ce matin, ministre de la Sécurité publique, qui a beaucoup de dossiers quand même importants. D'entrée de jeu, là, le premier, c'est la situation à l'UPAC. Juste rappeler que le commissaire Lafrenière a remis sa démission, qui quitte au début novembre. On connaît tous les problèmes internes à l'UPAC. Qui on va nommer? De quelle façon on compte nommer la personne? Il y a toute la question du cannabis également. Bref, il y a des dossiers importants. L'éducation, pour la première fois, c'est un enseignant qui est ministre de l'Éducation. Alors, on regarde ça. L'environnement, bon, c'est une femme qui vient du milieu des affaires, qui a été choisie. On comprend. Mais on ne sent pas encore, même si on le dit un peu dans le discours. Là, je regardais le communiqué officiel hier. Oui, oui, c'est une priorité. Très bien, mais je dois dire que je ne le sens pas. Alors, on va peut-être le sentir un peu plus dans les jours qui vont venir. Mais donc, de gros dossiers qui attendent le nouveau gouvernement. Et celui qui ressort comme étant pas mal le joueur clé, c'est Simon Jolin-Barrette, qui occupe le poste de leader parlementaire, on vous le disait hier matin, mais le dossier de l'immigration et celui de la laïcité ou l'intégration, comme on dit, l'inclusion. Toujours un peu tiré par les cheveux, mais bon. Alors, c'est le portrait du gouvernement du Québec et on va voir comment ça va aller. C'est sûr qu'il y a des déceptions. Claire Samson, députée de la CAQ depuis un certain nombre d'années là, à Iberville, n'a pas été choisie, elle n'était pas contente, mais du tout. Et elle est partie en pleine cérémonie d'assermentation, on l'a vu par le ton, en disant « ça va me donner beaucoup de temps pour m'occuper de mon comté ». On peut comprendre que Yann Lafrenière aussi doit être pas mal déçu. Je voyais, même si officiellement... C'était pas le discours, là. N'importe qui a des ambitions, puis probablement qu'on lui a fait miroiter sans lui promettre un poste de ministre. Donc, il n'est pas là. Quelque chose me dit que s'il y a des inondations au Québec au printemps, vous allez le voir avec les bottes, là, puis là, il va être utile pour la CAQ de le promener. Et aussi, peut-être dans un remaniement ministériel à mi-mandat, peut-être qu'il pourrait donc se retrouver au sein du gouvernement. Mais ça, il y a toujours des gens frustrés à chaque fois qu'il y a des choix importants qui sont faits comme ça. Deuxième dossier ce matin, celui du cannabis. Bon, encore une fois, une auditrice m'envoie une photo de la succursale de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est dans un petit centre commercial que je connais assez bien, qui était, à part le supermarché IGA, assez tranquille. Il y avait beaucoup d'espace à louer. Et là, s'installe la succursale pour vente de cannabis. Et là, m'envoie une photo, hier après-midi, 16h30, la filée. Je ne sais pas si au Québec, on est des passionnés de faire la queue, là, mais ça n'a pas l'air de déranger les gens. Il ne faut pas que tu aies grand-chose à faire pour aller te mettre en ligne par un temps assez froid, merci, pour aller chercher un peu de cannabis. Un auditeur m'a écrit, lui, il est allé à la succursale sur la Rive-Sud et il a dit non, non, non. Quand il a vu la file d'attente, il a dit « oublie ça ». Mais sincèrement, je ne sais pas pourquoi les gens sont prêts à attendre à ce point-là. D'abord, il était capable, et vous êtes capable d'en consommer autrement, vous pouvez faire des commandes en ligne, puis ça arrive assez vite, là. La preuve, Catherine l'a fait, puis ça a pris 24 heures, puis c'était chez elle. Fin d'expérience, je rappelle. Alors, c'est quoi l'idée? Je peux comprendre qu'il y a un trip, peut-être, là, la première journée, pour marquer l'histoire, comme on dit. Mais, je sais pas, peut-être que ça va s'estomper. Mais en même temps, je regarde IKEA à Québec, les gens étaient prêts à faire la queue. IKEA à Boucherville, il y a plusieurs années, les gens étaient prêts à faire la queue. Il y a des restos déjeuner la fin de semaine, là. On parle toujours bien des œufs, puis du bacon, puis je comprends que ça peut être bon, puis que c'est meilleur à certains endroits. Mais faire pratiquement un coin de rue, puis attendre pour aller bruncher, non. Mais il y a des gens qui sont prêts à le faire. Premier volet. Deuxième volet, le Journal de Montréal le rapporte ce matin. Des auditeurs m'ont écrit hier dans la journée en me disant que, en allant chercher nos cigarettes à Kahnawake, ce qui est bien sûr un geste que vous n'avez pas le droit de poser, notre vendeur de cigarettes a décidé de nous offrir des produits dérivés autour du cannabis. Alors là, un monsieur qui m'écrit puis il me raconte ça, puis il dit « ça m'intéresse pas, je veux rien savoir de ça », puis là, il insiste, puis il dit « ben regardez, vous avez vos cigarettes, puis là, on va vous vendre également des produits du cannabis, pourquoi vous en prenez pas ?» Puis là, on sent qu'il y a un malaise chez les Mohawks, c'est une substance qui n'est pas, disons, très appréciée, puis on connaît des problèmes aussi, on le sait, de dépendance de toutes sortes dans les communautés autochtones, donc c'est sûr que ça irrite. Et le troisième volet, les ventes vont bien, on le sait, là, il y a, dans certains cas, rupture de stock. Il y a un auditeur qui me fait remarquer, puis là, je vous lance là-dessus, puis selon votre expérience, vous pourrez peut-être compléter. Monsieur me dit, un commentaire, la moyenne des prix, parce qu'on nous annonce ça comme étant le prix le plus bas au Canada, là, autour de 5,29 $. Dans les faits, les produits qui restent, on est davantage dans des prix de 10 $ le gramme. Les produits pas chers dans les succursales sont disparus, évidemment, rapidement. Donc, la plupart des produits sont beaucoup plus chers que ce qu'on retrouve sur le marché noir. Pour ma part, je continuerai à faire affaire avec mes anciens fournisseurs et je crois que ce sera le cas pour plusieurs. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça, parce que je pense, et ce monsieur qui m'écrit n'est pas le seul, là, les gens comparent pas mal les prix entre leurs fournisseurs habituels et ce qui est offert par le gouvernement. Dernier point concernant le cannabis. C'est la bataille devant les tribunaux. Je vous le disais hier, il y a possiblement 5, 6, 7 enjeux qui risquent de donner lieu à des affrontements devant les tribunaux. Ça peut être, et ça va sans doute partir de ce qu'on appelle une cause type. Mais hier, la ministre de la Justice nous a expliqué que, vous allez regarder la situation venir, là, si jamais la CAQ, et c'est l'intention renouvelée, veut amener l'âge légal de consommation à 21 ans, sans trop se compromettre, ce qu'elle nous dit, c'est que des citoyens vont pouvoir dire que c'est discriminatoire. La loi dit que c'est 18. Il y a des variations, c'est toujours en fonction de l'âge de consommation d'alcool. Alors, comment tu vas venir justifier 21 ans? Les limitations qu'on va mettre pour ce qui est de la consommation. On sait que la CAQ a répété son intention d'interdire la consommation dans les endroits publics. Est-ce qu'on va contester ça aussi, la réglementation ou l'approche Québec qui, avec le gouvernement de François Legault, est pas mal plus restrictive que ce qu'on retrouve, en tout cas, ailleurs jusqu'à maintenant? Ça ferme le dossier du cannabis. 6h13, Marc, c'est vendredi. Les points chauds. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez regardé l'émission Enquête présentée hier à Radio-Canada concernant les pères Oblans, curés dans 8 communautés autochtones du Québec qui auraient agressé sexuellement des enfants et des femmes. On connaît tous depuis des années maintenant, ces nombreux cas de prêtres pédophiles qui ont abusé, donc d'enfants qui étaient sous leur responsabilité, de prêtres qui ont aussi abusé de jeunes filles dans différentes communautés. Il y a eu des recours devant les tribunaux, des recours collectifs. Et c'est toujours, toujours, toujours le même scénario, c'est-à-dire des prêtres qui sont en autorité, souvent pendant des décennies, qui commettent des abus sur des enfants, des abus qui sont connus, des drapeaux rouges ont été levés, et malgré cela, les prêtres continuent. Ou bien on ferme les yeux, ou encore on décide de les déplacer ailleurs. Alors c'est non seulement cette espèce de marché libre pour des prêtres abuseurs, mais l'institution qui décide de cautionner les gestes de façon absolument scandaleuse. Et ce que montre le reportage hier, on est vraiment là au sein de communautés autochtones, dans 8 communautés plutôt, et ce sont des événements qui remontent dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, puis ça va jusque dans les années 90. On donne l'exemple du père Reynald Couture, qui a sévi dans une communauté en Haute-Mauricie pendant 10 ans. Et lui, il attirait les jeunes dès l'âge de 6 ans et les agressait. Alors, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé avec le père Couture? À la fin des années 80, des intervenantes sociales de la communauté ont demandé aux autorités religieuses de retirer le père Couture. Les Oblats refusent. Quelques années plus tard, le père Couture quitte, prétextant des ennuis de santé. On l'a caché en France, toujours au sein de la communauté. Et finalement, il a été rattrapé par la justice. Il y a 8 Atikamekw qui ont porté plainte contre lui en 2000 pour des agressions sexuelles, alors que ses plaignants étaient des enfants. Il a reçu une peine de 15 mois de prison, ce qui est évidemment une farce. Mais souvent, les sentences rattachées à des crimes d'abus sexuels sur des enfants sont des farces. Et la liste est longue de tous ces prêtres qui ont comme point commun donc d'être des Oblats, d'avoir été protégés par leur communauté puis d'avoir fait une série de victimes chez les Autochtones. Puis je lisais encore ce matin, Pennsylvanie, des enquêtes sur la façon dont des institutions religieuses ont protégé des prêtres abuseurs. Et la dénonciation est encore assez timide, je pense entre autres aux propos tenus par le pape François. On comprend qu'il est supposément outré, scandalisé, puis que c'est le passé, puis que maintenant les choses ont changé, puis qu'on va agir différemment. Mais c'est profondément dégueulasse. On connaissait l'histoire des pensionnats, des mauvais traitements. On découvre, cas après cas, des gestes posés par des prêtres au sein de communautés. Puis là, on parle des Autochtones, mais combien de recours contre les clercs Saint-Viateur? Puis là, je vous le dis, la liste est extrêmement longue. L'autre sujet qui me préoccupe pas mal et qui n'est pas très documenté ce matin dans les journaux, ce sont les chiffres dévoilés par l'Institut de la statistique du Québec concernant la proportion d'enfants vulnérables dans les maternelles 5 ans du Québec. Et ce qu'on constate, c'est que c'est une hausse des enfants qui ont des difficultés. Ça ne veut pas dire que ce sont des enfants qui, pendant tout leur cheminement scolaire, vont devoir être accompagnés, des enfants qui ont des problématiques complexes, mais ça veut dire qu'il y a un potentiel de retard pour ces enfants-là. Et là, on parle de plus de 25 %, c'est en augmentation en l'espace de quelques années. Et ce que disent certains chercheurs, ce qui se passe actuellement montre que le niveau de qualité des services de garde et des maternelles 4 ans n'est pas nécessairement adéquat, surtout pour les enfants qui ont des problèmes. Puis là, vous allez me dire, ça veut dire quoi, c'est un enfant qui a des problèmes? Quels sont les critères? Bien, il y en a certains, que ce soit au niveau du comportement, que ce soit au niveau du développement du langage. Donc, des enfants qui sont considérés comme vulnérables. Les compétences sociales, la santé physique, développement cognitif, capable d'interagir avec les autres. Mais quand tu t'arrêtes 2 secondes, vous rendez-vous compte, 25 % 27 % des petits Québécois ont un problème potentiel. Dans bien des cas, ça va aller, mais cette nouvelle réalité scolaire, quand je dis nouvelle, là, je parle des dernières années. Et j'ai hâte d'entendre le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, là-dessus, qui est un enseignant, je le disais tantôt, comment est-ce qu'on va déployer les ressources? On connaît le projet de la CAQ qui est contesté. Il y a des experts qui pensent que c'est une bonne idée, d'autres qui disent que ça n'a aucun sens. La maternelle, 4 ans pour tous. Le docteur Carman qui a été nommé hier pour aider à dépister les enfants qui ont des difficultés. On apprend aussi ce matin dans la presse que Sinorama est en faillite. Pas une grosse surprise, une faillite de 13 millions. Alors, ils ont déposé leur bilan au bureau des surintendants des faillites. L'entreprise doit 13,5 millions et a des actifs de moins de 1 million. Alors, ça veut dire que les créanciers vont pratiquement tout perdre dans cette opération. Ça veut dire qu'on est toujours en train, et on sait qu'un gestionnaire qui a été nommé pour permettre aux gens de retrouver les montants à partir du fonds de protection là, des agents de voyage. Mais ce qu'on nous dit maintenant, c'est que plusieurs attendent encore des chèques. Il y en a qui ont été envoyés pour donc les compenser sur les acomptes qui ont été perdus. Et on dit également que 300 personnes ont reçu ou recevront prochainement donc la somme globale. On dit avoir reçu 5300 réclamations sur la base des 300 premiers dossiers traités, 4300 $ par personne. On pense que ça pourrait donc coûter autour de 25 millions environ. Alors, c'est une immense fraude qui a été orchestrée. Et tu sais, quand c'est trop beau pour être vrai, que ça coûte tellement pas cher, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des clients satisfaits. Ça veut juste dire que c'était mal géré et que là, on a aspiré de l'argent. Puis, c'est pas que c'est une chaîne de Ponzi. Mais tu sais, quand tu prends l'argent de quelqu'un qui vient d'acheter un voyage pour être capable de payer le voyage de quelqu'un qui l'a acheté depuis un certain temps, bien, ça fait un peu cet effet-là. Aussi, ce matin, on nous dit que le Canada est en pourparlers avec les États-Unis dans le but de mettre un terme aux tarifs imposés sur l'acier et l'aluminium. Et je veux vous parler également du dossier du journaliste Khashoggi. On en apprend tous les jours, là. En résumé, ce que l'on sait, ce sont les services turcs de renseignement qui pissent dans les oreilles de certains journalistes pour dire « voici les preuves audio et dans certains cas, vidéo qu'on a ». Ça a duré une demi-heure. Le gars entre au consulat de l'Arabie saoudite en Turquie pour aller chercher des papiers pour son mariage. On sait qu'il y a un groupe de 15 personnes du service de sécurité qui se trouve en sa présence, identifiés environ 4, et on pense qu'ils étaient plus que ça, notamment le médecin légiste. Et qui sont les gens qui sont les plus près du prince héritier qui sont présents? C'est évidemment le médecin légiste et l'espèce de chef de la sécurité. La version de l'Arabie saoudite, c'est de nous dire que, vous savez, des gens ont posé des gestes de leur propre initiative, c'était pas prévu. Au contraire, l'enquête démontre que c'est une commande et que les joueurs actifs sont des joueurs directement connecté sur le prince héritier et sa garde rapprochée. On lui a arraché des doigts, on l'a décapité, on l'a démembré et on s'en est débarrassé. Même le président Trump, étonnamment, est en train de nous dire qu'il pense, lui aussi, qu'il est décédé entre les mains des Saoudiens et que si ça se confirme, parce qu'on donne un peu de temps, il pourrait y avoir des conséquences graves. Remarquez que c'est Donald Trump et qu'il peut changer d'idée d'ici 5 minutes. Alors, voici, c'est sa dernière déclaration la plus à jour, là. Mais disons que le ton a changé par rapport à la veille. 6h23, l'autoroute 13.